Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, Air d'Ivoire pour l'interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clovis Véron. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Céline Babin-Véron.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et Marianne Godet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous trois, vous êtes ici pour nous annoncer un événement à venir le 8 avril qui s'appellera De fil en usine. Avant d'aborder cette journée, on va peut-être aussi introduire l'émission par la présentation de ce qu'est l'usine. Alors, je me tourne pour ça vers Clovis. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Oui, alors l'usine vivante est une association qui s'est montée maintenant il y a pratiquement 2 ans pour revitaliser une ancienne usine, d'où le nom, l'usine Samson à Accray. On a l'objectif d'en faire un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace qui accueille autant des indépendants que des artisans et aussi des espaces pour de la formation, des découvertes et pour cette journée-là, tout ce qui tourne autour du textile.
Alors l'usine précisément est située où?
Elle est située à Cray, rue
Adrien Fayolle.
Merci.
La rue Adrien Fayolle. Alors, elle est très proche du centre-ville, pardon.
Et existe-t-il d'autres lieux comme ça, un peu en friche, du côté de Cray, qui seraient prêts à être investis aussi?
Des friches, pas à ma connaissance. Il y a d'autres tiers-lieux, notamment le Fab Lab.
Il y a l'entresort.
Oui, mais c'est pas un tiers-lieu en fait.
C'est pas un tiers-lieu. Ah, non, c'est des espaces de coworking. En fait, il y a des espaces de coworking sur Cray, davantage. Le Fab Lab qui fait office aussi de tiers-lieu. Et il y a l'épicentre aussi numérique.
Voilà, le pays, ouais.
Voilà, le pays. Donc c'est quand même déjà c'est tourné. Par contre, un site industriel comme ça qui est réhabilité en tiers-lieu, je crois que c'est le seul projet dans le coin qui est de cet acabit-là.
Et de cette envergure aussi, on a énormément d'espace à restaurer. Pour le moment, on a investi la tour d'administration, essentiellement le premier étage. Là, on est en cours d'aménagement et de réhabilitation du rez-de-chaussée pour avoir des salles de réunion. Ce qui nous manquait et ce qui va permettre d'avoir de grands espaces pour 12-15 personnes. On est sur la rénovation du rez-de-chaussée pour faire des espaces des salles de réunion. Pardon. Et devant nous se projette le grand espace Est, qu'on appelle l'espace de bouche, où on attend en fait les bières d'Edgar et le traiteur Paprika, qui vont prendre chacun un tiers. Et l'usine a l'objectif d'ouvrir au centre, au milieu de cet espace, un petit bar-restaurant associatif, où on pourra, pour le coup, vraiment faire des choses autour de notre association.
Qu'est-ce qui vous a motivé à monter ce lieu ?
En premier lieu, le lieu, effectivement, le coup de foudre pour cet endroit qui est un grand bâtiment empreint d'histoire. Il y a déjà eu trois histoires industrielles. Ça a commencé par du textile, justement, où on fabriquait des packages pour les militaires, je crois, enfin des paquets d'habits pour les militaires. Ensuite, il y a eu une première période industrielle où on fabriquait des éléments pour avions. Et la dernière période d'activité industrielle et entrepreneuriale, ça a été l'usinage de pièces mécaniques. Et voilà, et nous arrivons et on compte poursuivre l'aventure de ce lieu.
Alors, je me tourne vers Céline. Mm-hmm. L'usine vivante, pourquoi ce nom?
Pourquoi le nom? L'usine parce que c'était une usine, c'est tout bête, et puis vivante parce que les habitants voulaient lui redonner vie, donc voilà, et qu'il y avait une histoire Enfin, c'est tout simple, hein. On s'est dit, tiens, l'usine vivante, ça sonne bien. Et puis, oui, il n'y a pas trop... je crois que c'est venu assez vite, en fait.
Bah, c'est aussi dans l'idée de revitaliser Cray, d'amener de la dynamique, d'ouvrir des espaces de coworking, de travail, de rencontres, de partage.
Du 109, voilà. Il y avait plein de choses comme ça, quoi. Le fait d'avoir une diversité d'acteurs et créer des synergies nouvelles. Parce qu'en fait, on a quand même un centre-ville à Cray qui s'est pas mal dévitalisé. Et par contre, des tas de gens qui ont envie de faire des choses, des indépendants qui travaillaient de façon isolée, et puis des personnes qui ne sont pas forcément... Donc on a des résidents, on les appelle les résidents, hein, les locataires, les coworkers, là, et des bénévoles autour de l'association. Et donc ça permet de faire participer et des entrepreneurs et des gens qui sont juste citoyens, habitants, et qui veulent participer, donner quelques heures pour que ce projet, ces synergies, elles se mettent en place. Et de fait, ça fonctionne parce qu'on a démarré, il n'y avait personne qui avait loué et en moins d'un an, on est déjà à 24 résidents, je crois, à peu près.
Oui, maintenant, il y a même une liste d'attente.
Et ouais, et les gens, ils tapent à la porte, et les artisans notamment, et c'est pour ça que là pour l'instant on est sur cette deuxième phase où on doit vraiment réhabiliter le bar, il y a des travaux, et donc ça demande un peu de temps, mais ce qui a pu être fait dans le temps les plus rapides, ça a été fait très très vite et de façon très efficace, par coopération comme ça, par ces groupes de travaux différents qui ont permis que ça avance.
Et ce lieu est géré sur quel mode, au niveau administratif?
On est constitué en commission. On a 5 commissions importantes. La commission technique, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de bâtis et de la rénovation. La commission communication, qui y va de soi. Vie de l'association et événements, qui sont deux commissions distinctes. Et une commission pour les résidents.
Alors, comment se passent les rapports avec les collectivités locales sur cette initiative?
Avec la collectivité locale, en interne, à la mairie, à proprement parler, c'est pas forcément un projet qui est bien, bien soutenu par la mairie, on va le dire comme ça.
Bon, elle avait d'autres perspectives pour l'espace du lieu.
Voilà, maintenant le propriétaire du lieu qui est quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est bien implanté dans la ville, lui a vu d'un bon oeil, c'est un chef d'entreprise à la base et il a bien aimé cette dynamique collective et le fait d'aider d'autres jeunes entrepreneurs à se mettre en route. Donc petit à petit, ce travail de confiance et de vrai partenariat entre le propriétaire et l'association et les gens qui constituent l'association ont permis de gratter un peu ce terrain où on était sur un territoire où on n'avait pas forcément la confiance locale. Par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu autour, au niveau de la communauté d'aglo, au niveau
du département aujourd'hui,
ça y est, là, le soutien commence à arriver et ça fait du bien, quoi. Voilà.
On a aussi un bon soutien, on a fait un crowdfunding qui a plutôt bien marché, on a eu presque 20 000 euros, ce qui nous donne 18 000 euros d'actifs à débloquer. Et on a ce qui peut vraiment maintenant aujourd'hui lancer nos projets. Et même, on attend nos premiers artisans dans le grand atelier.
Je me tourne vers Marianne. Est-ce que tu pourrais me dire comment as-tu connu l'usine vivante?
J'en ai pas mal entendu parler. En fait, quand j'étais à la bonnetterie, qu'on était sur le projet de café associatif, il y a quelqu'un qui est parti pour rejoindre le... Il y avait un projet de café associatif là-bas et comme elle sentait qu'à la bonnetterie, ça allait être un peu long à se mettre en place, elle a préféré rejoindre l'usine vivante. Du coup, ça, c'est la première fois où j'en ai entendu parler. Je connais la personne qui veut s'installer là-bas, le traiteur.
Paprika.
Paprika.
Ouais. Ouais, c'est Paprika qui nous a mis en contact avec toi.
Du coup, je guettais un peu, étant à la bonnetterie, sur un projet pas similaire du tout, mais c'est une usine qu'on cherche à réhabiliter, à faire revivre. Ça m'interpellait, du coup, je surveillais de loin.
Je me tourne vers Clovis. Clovis, comment êtes-vous venu? Est-ce que vous êtes d'origine de la Drôme
Pas du tout, non. Moi, je suis un néo-drômois. depuis 2 ans. Et en fait, je connaissais l'usine vivante via Internet dans même sa gestation. J'avais bien regardé tout ce qui se passait autour de Cray et ils avaient eu la bonne idée d'ouvrir leur blog très très tôt. Ce qui m'a permis de découvrir cet espace avant même qu'il n'ouvre. Et ça a été même un élément déterminant pour me poser à Cray.
Et quelle est votre fonction, Clovis, au sein de l'usine vivante?
Alors, j'étais au début actif à la commission communication. Aujourd'hui, un peu moins, faute de temps. Je suis toujours administrateur au CA.
Je poserai la même question pour Céline.
Alors, Céline a suivi Clovis, hein, donc elle vient du même endroit que lui et elle est arrivée à peu près en même temps que lui. Et donc, moi, je me suis très vite investie à la commission vie associative. Donc, je les ai rejointes d'abord sur cet endroit où on a commencé à arriver, établir des règles de fonctionnement, d'accueil des premiers résidents. Et puis après, on s'est tourné sur comment fidéliser les bénévoles autour du projet, parce que c'est quand même un projet qui est 99% bénévole. Comment on accompagnait la salariée aussi sur son poste. Donc tout ça fait partie des choses qui peuvent se discuter en commission via l'usine. Et après, cette commission, elle s'est scindée. On s'occupait au début des événements, on faisait un peu tout aussi. Histoire que tout le monde puisse souffler aussi un petit peu. On a fait un appel d'air, on a réouvert sur une commission événement qui s'est détachée de la commission vie associative, qui elle vraiment est spécifique sur des temps forts, comme celui qu'on vous présente, là, de fil en usine, hein, qui repose sur l'histoire du lieu, mais ça pouvait être aussi, l'année dernière, on a fait les journées du patrimoine, où on fait ce qu'on appelle des sorties d'usine. Donc ce sont ces grands moments qui permettent aux habitants, et de façon plus large, de faire découvrir ce site, ce lieu, ou de faire un marché de Noël, comme on a fait aussi à Noël, voilà. Et donc, à l'intérieur de la commission, moi, je me suis occupée principalement de tout ce qui concernait l'accueil des nouveaux, des bénévoles, faire du tutorat, du parrainage, parce qu'on a à peu près 40 bénévoles qui se répartissent sur les différentes commissions. Et il y a toujours des gens qui sont attirés par le projet, qui ont envie de donner un peu de temps. Et ça, c'est super. Et pour ne pas s'essouffler, parce que comme c'est quand même un projet de grande envergure, c'est important de prendre soin de cette partie-là. Et puis, la partie ouverture vers les habitants, parce qu'on a dit que c'était un tiers-lieu, il a un modèle économique qui essaye de tourner, là. Et il y a une autre partie qui est non lucrative et qui est vraiment à fonction sociale, qui est de s'ouvrir sur d'autres habitants. Moi, je me suis occupée, j'ai participé au projet jardin. Il y a quelques espaces verts qu'on peut gratter. Donc, toute la première année, ça a été de voir qu'est-ce qui était viable, pas viable. Est-ce qu'on pouvait planter des choses ou pas dans les petits bouts de verdure qu'il y avait autour de cette usine. Et puis, on a fini par réussir à planter des fruitiers. Et puis, donc là, maintenant, on a des arbres fruitiers. Et on a une nouvelle animatrice de l'espace jardin qui vient de prendre ses... bénévolement ses fonctions et tous les vendredis soirs il y a une ouverture au groupe jardin et ils viennent de planter leur premier radis et oignons et voilà, l'année dernière on a fait des tomates. Donc c'est un espace qui se veut vraiment vivant, où on travaille, où les gens peuvent venir planter des choses, où il faut que ça pousse, quoi, que ça vive, c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà.
Le quartier revit donc.
Le quartier, en tout cas, ceux qui participent au projet et qui sont autour du quartier revivent. Et l'idée de fil en usine, c'est aussi, parce qu'on parlera plus en détail, mais c'était d'ouvrir, vraiment on veut s'élargir, on ne veut pas rester dans un espèce d'entre-soi, donc on est quand même juste entre le centre-ville et le quartier de la Prairie, qui est un quartier populaire, et du coup, on veut, voilà, cette journée a la vocation aussi à faire venir d'autres personnes. Voilà.
On va aborder cette fameuse journée du 8 avril, et donc qui s'appelle, comme vous l'aviez dit, de fil en usine. Alors, c'est un moyen pour vous de valoriser ce qui est produit dans l'usine vivante ?
Alors, pas exactement. Parce qu'on produit plus, on fabrique plus rien en textile. Hein. Enfin, il y a pas, je crois pas qu'on ait un entrepreneur. Il y a eu un entrepreneur, mais il n'y est plus.
Il y a l'étoile du berger, non ?
Ah, il y a l'étoile du berger, voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Ouais. Merci, merci Marianne. Il y a l'étoile du berger qui est là et qui lui fait vraiment, c'est le spécialiste textile de notre groupe d'artisans. Effectivement, il s'est installé là, vraiment, il a pris ses quartiers.
Il ne fait pas du vêtement, il fait des yurts.
Voilà.
Il fait de la toile d'habitation.
Voilà.
Pour habitat léger, ouais, c'est ça. Et donc après, c'est vraiment l'histoire du lieu qui nous a fait, venir. Enfin, il y a une conjonction de différentes choses. Il y a Paprika qui fait partie aussi de la commission vie de l'asso, qui nous a parlé de Marianne et qui nous a dit ah, je connais quelqu'un qui voilà. Et nous, on se dit ah, textile sympa. C'est vrai que on venait de faire les journées du patrimoine, donc on s'était tous replongés dans l'historique de l'usine. On avait vu des photos anciennes avec les femmes qui sortaient. Et bon, riche de tout ça, on s'est dit tiens, pourquoi pas faire. On voulait faire une sortie d'usine un peu spéciale. Pourquoi pas faire un événement autour du fil de l'usine. Et effectivement, on revalorise des savoir-faire locaux en même temps. Étoile du berger en direct, mais pas que, puisqu'il y a des tas d'activités qui vont faire intervenir des artisans du coin qui sont venus apporter leur savoir-faire pour animer la journée.
Alors cette journée, c'est la vitrine de ce qui est pratiqué dans l'usine vivante, hein, c'est ça ?
C'est un événement, c'est pas ce qui est pratiqué à l'usine. Parce que ce qui est pratiqué à l'usine, en fait, c'est différents métiers. Il y a pas, c'est l'association Usine Vivante, c'est un espace où il y a plusieurs professionnels qui viennent louer leur espace pour faire leur activité. Et on a des activités très variées, hein. Ça va du consultant, en passant par une illustratrice pour enfants, en passant par du e-commerce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Clovis ?
Enfin, des différentes associations.
Des associations, la Fédération Paysanne, ADSOAR, enfin voilà, bon bref. On a des activités vraiment très variées, donc faire la vitrine de ça, c'est pas... Voilà,
l'objectif de l'usine est avant tout de donner un espace de croisement, de rencontre. On a nos résidents qui ont décidé, eux, de prendre une location d'un espace pour établir leurs activités. Mais l'usine vivante veut être un tiers-lieu ouvert et à part entière de tout ce qui se présente et tout ce qui vient vers lui. Et toutes les idées qui germent aussi au sein de l'usine.
Alors, cette journée du 8 avril, on va peut-être établir un emploi du temps, a commencé déjà en matinée avec les conférences gesticulées avec Marianne.
Oui, en effet, une conférence qui s'appelle « Le textile, ça tombe du ciel ?» Point d'interrogation. Donc, je m'attache à... Alors, peut-être je pourrais dire un mot sur qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée, parce que je crois que tout le monde ne connaît pas. Une conférence gesticulée, c'est une forme entre le théâtre et la conférence. C'est pour ça que c'est pas juste une conférence, c'est que pour faire sourire, on a appelé ça des conférences gesticulées. C'est une conférence qui mêle du savoir froid, c'est-à-dire du savoir livresque, du savoir universitaire, du savoir théorique, et du savoir chaud, c'est-à-dire du vécu, de l'expérience de la personne qui parle. Et quand on mélange du savoir froid et du savoir chaud, ça ne donne pas du savoir tiède, ça donne du savoir politique. En ce qui me concerne, à viser clairement anticapitaliste. Donc moi, je me suis attachée à montrer, à décrire la filière textile telle qu'elle est aujourd'hui, en tant que système, dans un système capitaliste, et notamment un système autour de la pétrochimie, qui est construit autour de la pétrochimie. Donc comment on cultive le textile, c'est de l'agriculture, ou de la pétrochimie. Et comment on cultive le coton avec beaucoup de pétrochimie. Voilà, donc en gros, le système, la filière textile telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est majoritairement pétrochimique. Et pour ne pas rester là-dessus, je décris un système qui pour l'instant est utopique, qui a existé il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a 100 ans, il y avait encore des champs de chanvre un peu partout ici. Qui était valorisé, c'était pas mis à la poubelle, c'était pas diabolisé, on fumait pas des pétards avec, avec, tout ces, avec tout ça. Et donc, je m'attache à proposer quelque chose en remplacement de cette filière pétrochimique. Dans l'idéal, c'est facile. Dans le concret, c'est compliqué à remettre en route parce qu'il y a une législation qui interdit la culture du chanvre à plus de 0,2% de THC, le fameux tétrahydrocannabinol, la molécule qui fait planer. Donc voilà, je raconte un peu tout ça. Et en même temps, je raconte mon parcours de costurière. Je suis un hybride entre une costumière et une couturière. Donc des anecdotes, j'ai choisi dans ma vie perso et professionnelle des anecdotes qui illustrent mes propos.
Je revenais à la culture du chanvre. Il semble quand même que tout exploitant doit se réapprovisionner chaque année en graines, oui, chez le fournisseur. Donc il y a un taux de contrôle qui ne permet pas,
ah oui, c'est très contrôlé,
ce type de désagrément, entre guillemets. Voilà. Donc, et est-ce que c'est vraiment chanvre, un vrai débat ou est-ce que c'est un faux prétexte?
Qu'est-ce qui est un vrai débat?
Au développement et au retour du textile en fibre.
Ah bah, c'est pas en débat, c'est une législation, point.
Il n'y a pas moyen de discuter.
Il n'y a pas de débat.
Non, il n'y a pas de débat tout là.
Et ça, moi, c'est... j'aimerais qu'il y ait du débat.
Voilà, très bien.
Qu'au moins on puisse en parler et qu'on ne soit pas diabolisé. Parce qu'on fait pousser un chanvre à un taux de THC. Le chanvre, textile traditionnel, il a un taux de THC de 2%. Quand tu achètes de l'herbe au marché noir, si ton herbe elle est à 5%, le dealer il t'a arnaqué grave. Donc faire pousser de la fibre textile avec 2% de THC, moi il me semble que ça va, quoi. On n'est pas des diables. On n'est pas des camés, on va s'en sortir.
Ariane, quel est le pourquoi du 2%, enfin quelle est la difficulté en fait?
En fait, la difficulté, c'est que avec le chanvre, tu peux absolument tout faire.
Oui.
C'est une plante qui pousse très facilement, qui a pas besoin d'engrais. Donc les lobbies pétrochimiques, ils vont rien te vendre. Il a besoin de très peu d'eau. Après, Henry Ford, qui est pas réputé ni camé, ni gauchiste, il a fait une bagnole dont la carrosserie était entièrement en chanvre. Les fauteuils, tout était en chanvre, sauf la mécanique qui était métallique. On peut faire du papier avec le chanvre, on peut faire de l'huile, d'une huile alimentaire de très bonne qualité, on peut faire de la construction. Les utilisations du chanvre sont immenses et très variées. Les lobbies pétrochimiques, avec une plante qui n'a pas besoin d'eux, tu peux remplacer les sacs plastiques. Tu peux remplacer plein de choses qui viennent du lobby pétrochimique. Donc ils ont fait pression. Ils ont réussi à l'interdire en 1937 aux États-Unis. Ils l'ont remis en route en 1942 quand les États-Unis sont rentrés en guerre. Et ils l'ont rediabolisé en 1945 à la fin de la guerre. Voilà, l'historique du chanvre, c'est ça.
Et par rapport à ce taux de THC ?
Le taux de THC, c'est quoi le problème?
Oui, mais c'est quoi la difficulté? Pourquoi on ne fait pas du chanvre à 0,5 et puis voilà?
Va demander aux législateurs français qui demandent que le chanvre, que le taux légal passe à 0,18. On est à 0,2. En 2002, on était à 0,3. Et là, la législation française réclame encore une baisse du taux de THC. Et je trouve ça parfaitement honteux.
Et ça, c'est une difficulté agricole.
Y a un agriculteur espagnol qui a fait pousser du chanvre à 0,8% de THC. Il croupit en prison. Il a pris 3 ans et demi plus une amende. Donc ça donne pas très envie.
Mais pourquoi il a fait du 0,8 plutôt que du 0,2? C'est ça que...
Je vais pas poser la question. Je le connais pas personnellement. Le chanvre, il y a énormément de variétés. Y compris dans les plantes à tétrahydrocannabinol. Il y a plein de variétés. Il y a des milliers de variétés. Le chanvre, il faut savoir que c'est une plante que l'homme fait pousser depuis le néolithique. Et l'homme, au néolithique, l'a trimballé dans toutes les régions du monde. Mmh. Et dans pratiquement toutes les régions du monde, le chanvre s'est adapté. Du coup, c'est une plante qui peut pousser un peu partout. Elle ne pousse pas au pôle Nord, elle ne pousse pas au pôle Sud. Mais à part ça, elle pousse en Himalaya, elle pousse dans la jungle, elle pousse dans les pays du Nord. C'est vraiment, c'est une plante extraordinaire qui a besoin de rien, encore une fois. Du coup, je pense que c'est une attaque contre la possible autonomie qu'on pourrait tous avoir.
Okay. Tu vois, c'est exactement pour ça que moi, je suis rentrée à l'usine vivante. C'est pour rencontrer des tas de personnes qui arrivent avec un savoir, des expériences, et tout ça, ça se mélange. Moi, je pense que, bon, on se serait peut-être rencontré ailleurs ou autrement, mais ce que je constate depuis que je participe au projet Usine Vivante, les gens que j'y côtoie, qui sont d'horizons, de métiers variés, moi, je viens du monde de la formation, dans l'insertion, je suis un peu sociale, bon... Il y a des tas de choses que j'ai découvertes rien qu'en étant juste bénévole, donc sur de l'association. Voilà, on se sent toujours un peu moins bête quand on participe à un projet comme l'usine vivante.
Alors, suite à la conférence gesticulée, il y aura un débat abordé.
Alors, il peut y avoir une discussion. Je propose, après la conférence gesticulée et après le repas, je propose un atelier parce que... Où je vais chercher à réunir des personnes pour réfléchir à un premier pas entre la filière textile telle qu'elle nous est servie aujourd'hui et l'idéal que je propose. Il y a beaucoup de chemin. Et pour moi, c'est important de se mettre en route et de faire un premier pas. Et du coup, de regarder dans mon quotidien, dans le quotidien de chacun, comment on fonctionne déjà dans un premier temps, combien de pantalons j'ai dans mon armoire, d'où ils viennent ces pantalons, et ensuite de chercher à remplacer. Donc j'ai une certaine pratique aujourd'hui, et comment je peux faire pour transformer peu à peu ma pratique. Voilà, l'idée de mon atelier, c'est ça. Mais il y a d'autres ateliers aussi.
Voilà, oui, de retouche, j'ai lu aussi, et puis quoi d'autre ?
Oui, bah alors... Déjà, de fil en usine, c'est avant tout une grande gratiféria. C'est le point d'orgue en fait, de la journée, qu'on organise une gratiféria. Une gratiféria, c'est...
Mais avec vos placards.
Viens avec ce que tu as en trop dans tes placards et on échange. Il n'y a pas d'argent, c'est toi tu amènes des choses, l'autre il amène et si ça te plaît, tu repars avec et sans problème. Donc il y a un travail de récupération, d'ailleurs il y a un dépôt possible à l'usine dès le mercredi 5 avril, entre 14h et 19h. Vous pouvez faire vos armoires et puis si vous en avez trop, bah, venez déposer à l'usine, c'est l'occasion de voir, de faire un tour de l'usine et puis comme ça bah, vous déposerez utile. Et puis le samedi 8 avril jusqu'à 16h, on prendra tous les arrivages, donc voilà, hein, c'est le moment, c'est le printemps, faites vos armoires et comme ça après vous pourrez étudier ce que vous avez dans vos armoires avec Marianne, donc c'est super, j'ai noté. Voilà, après il y a des ateliers pour les petits, pour les grands. Donc c'est vraiment une journée qui se veut familiale et tout public. Donc qu'on soit intéressé, militant ou simplement curieux ou simplement en cours de nettoyage de printemps, c'est une journée qui vous plaira. Donc il y a des ateliers autour du jean, beaucoup d'ateliers autour du jean, notamment de recycler ces vieux jeans. Ça va de les recycler, de les transformer en sac à main ou de transformer ça en poche ou de transformer votre jean en ceinture.
C'est voilà. À quelle heure ?
Alors, c'est à quelle heure ? Ça commence, les ateliers commencent dès 11h le matin. Par exemple, à 11h, vous avez « Transforme ton jean en sac à main ». Voilà. Tu peux aussi créer une poche à tout en cuir. Donc il y a un artisan du cuir qui vient, enfin une femme artisan du cuir qui vient justement aider. Et elle vient aussi avec ses chutes de cuir, donc voilà, qu'elle met à disposition pour pouvoir manier ça. Il y a customiser un vêtement que t'aimes. Tu peux aussi ramener un vêtement ou un que t'as trouvé dans la gratiféria et si tu veux te le mettre un peu à... et de faire ta propre mode à toi, tu peux y aller. Tu te mettras les virgules que tu veux. Et puis, donc à 12h, vous avez toujours autour du jean, cette fois-ci en pochette. Tu peux te faire des mitaines. Il y a des tas de petits trucs. Donc c'est pour les enfants aussi, pour les ados. Et à 14h l'après-midi, il y a un atelier d'écriture autour du textile, donc qui est ouvert aux adultes.
Alors, pardon, je coupe. Tous ces ateliers sont animés par des personnes qui sont spécialisées ou dans leur activité ?
Alors, ce sont des ateliers qui sont animés soit par des artisans eux-mêmes qui viennent et qui, du coup, aussi se font connaître, mais sont tous, on est tous bénévoles sur cette journée. Donc, ça peut être aussi des adhérents de l'usine qui sont bénévoles, comme Catherine, qui a déjà fait des ateliers d'échange et de mutualisation des savoirs, ou... je vois des noms, je ne vais pas citer tous les noms, mais vous trouverez le programme complet, détaillé sur notre site internet, hein, il sera diffusé, il l'est déjà. Principalement, hein, ce sont des gens du coin qui soit avaient envie de partager un savoir-faire, un truc et astuce qu'ils avaient en poche, hein, et qui pouvaient le proposer, le partager. Donc ça, c'est issu de notre... à l'usine, on a aussi un atelier de mutualisation de savoir qui est donc conçu par les adhérents pour les adhérents. Donc si tu veux participer à un atelier, tu adhères à l'usine et puis voilà, de fil en aiguille, toi aussi tu peux amener un savoir-faire. Et, ça va des savoir-faire les plus pratiques à des choses très théoriques. Donc on mélange tout, le numérique, les fils électriques et les fils en coton. Et on tisse. Un grand maillage territorial.
Et pour ponctuer un peu la journée, vous indiquez repas partagé pour la demi-journée, c'est ça ? Ou pour la soirée ?
Le repas partagé, c'est le midi, Clovis ?
Oui.
Oui, si, Marianne ? Oui.
Je ne m'appelle pas Clovis.
Non, c'est Marianne, du coup. c'est le midi, c'est un repas partagé, ouais.
Un déjeuner partagé.
Ouais. Le principe du repas partagé, c'est ramène ce que tu as envie de partager avec les autres et puis pioche dans les assiettes. Et voilà, c'est assez convivial, très simple. C'est très très simple en fait.
Donc tu viens avec ton placard et ton frigo.
Ouais, un bout de ton frigo. On n'a pas fait encore, le Repair Café, il est du côté du Fab Lab.
Et le défilé alors, ça sera quoi exactement ?
Après une journée comme ça où on a fabriqué des fringues, des pochettes, et, parce qu'il y a quand même des machines à coudre qui seront mises à disposition, il y aura des outils et tout, il y a un grand défilé décalé qui se fera à 18h. En plus, je crois que sur Creil, il y a un carnaval qui s'organise, donc il risque d'y avoir des convergences entre le défilé décalé de notre événement et puis... Les carnavaleux qui vont se balader dans Creil. Donc tout ça sera animé par une chef de troupe d'une compagnie de clowns, qui est la compagnie de l'Envol. Et donc c'est Marie-France Duflo qui va animer le défilé. Et l'idée c'est de... C'est si t'as mis ta tenue bariolée ou si tu t'es fait une super robe digne des plus grands stylistes du moment, viens, défile et puis tout ça dans la bonne humeur, quoi. Et je pense que les clowns les clowns en brigade de Marie-France risquent de s'incruster dans le défilé décalé, ouais. C'est probable.
Alors cette journée, on peut y trouver la programmation sur internet?
Ouais, on tape usinevivante.org.
C'est ça, on y trouve tous les détails et les horaires, tout ce qu'il faut.
Et pour des questions pratiques, la voiture, elle est laissée où ?
Oh, tu la laisses sur le parking d'en face, pas à l'intérieur de l'usine, hein, puisque tout va se faire à l'intérieur dans la cour, donc les voitures plutôt à l'extérieur. Mais le mieux, c'est via un vélo ou via un pied. Si vraiment tu viens de loin, tu peux te mettre au parking des grands centres commerciaux. Ils ont fait des super grands parkings immenses et puis tu viens à pied après. C'est juste à 5 minutes.
Ouais, c'est tout près.
C'est tout près.
Marianne, Céline et Clovis, merci d'être venus nous parler de cette journée du 8 avril donc à Creil.
Merci à toi et à Radio Digua.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.